Vous avez beaucoup de chance de suivre Jésus. De loin, c'est le meilleur. De loin, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui a donné sa vie pour toi comme lui. Personne. Personne qui le fera jamais. Personne ne t'aimera autant que Jésus. Vous allez recevoir dans quelques instants un petit fascicule. Parce que contrairement à mon habitude, vous voyez, je suis un petit peu malade, mais bon. Je ne vais pas prêcher sur un personnage. Je ne vais pas analyser ses traits de personnalité, ses forces et ses faiblesses. On va t'analyser toi. Et c'est toi qui vas te donner ta propre prédication et qui va retenir ce que tu as besoin de retenir. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne gâchez pas votre temps ». Ne gâche pas ton temps. Ne gâche pas ton temps. En réfléchissant à une chose, qu'est-ce qui te sépare, qu'est-ce qui nous distingue de Dieu ? Vous êtes capable d'aimer Dieu aussi. Vous êtes capable de souffrir. Dieu est frustré et souffre également. Vous êtes capable de construire des projets. Dieu aussi a construit des projets. Il a créé la terre, les cieux et tout ce qu'il y trouve. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, normal, on lui ressemble. Mais regardez ici, ce mot-là, c'est ce qui te sépare de Dieu, le temps. Parce que avant la création du monde, Dieu est. Dieu était et Dieu sera. Et ce qui fait que le Créateur est bien Créateur, c'est qu'il maîtrise le temps. Alors que toi, sa créature, il y a un compte à rebours qui est lancé. Et chaque seconde, tu ne peux pas revenir en arrière. Et les années de ta vie, Dieu les connaît, mais tu ne les connais pas. Tu as 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an, et il y a un décompte qui est en cours. Pour tout être humain, ses créatures, Dieu a fait un don d'un sablier de temps à toi de l'utiliser le mieux possible. Aujourd'hui, par rapport à la fin de ta vie, ne gâche pas ton temps. T'as vu Time Out, un film, en 2034, fiction d'Hollywood. Les hommes pourraient se prendre à la place de Dieu, ils seraient capables d'acheter du temps. Je crois que cela n'arrivera jamais, parce que ce jour-là, les hommes seront Dieu, et Dieu arrêtera l'humanité avant. Mais dans ce film, lorsque deux personnes se touchent au niveau de l'avant-bras, elles arrivent à s'échanger des minutes de vie. Et dans ces cas-là, les plus riches vivent plus longtemps. Et la dernière grande justice sur la terre entre les pauvres et les riches disparaît. Vous savez que les riches, eux aussi, ont un temps limité. Et dans ce film, les riches arriveraient à voler le temps des pauvres. Et là, je peux vous dire une chose, non. Parce que Dieu est le maître du temps. Et d'ailleurs, Moïse, à 80 ans, il croyait que sa vie était finie. Il déprimait à garder un mouton de chèvre, un troupeau de chèvres et des moutons. Il était dans le désert, dans les plaines de Madian, puis il allait jusqu'à la montagne à Horeb. Puis un jour, il a vu un buisson en feu. Et Dieu l'a dit, à 80 ans, je te donne une nouvelle mission. Tu vas racheter ton temps. Et à la fin de sa vie, il écrit le psaume 92, dans lequel Moïse dit, 90, dans lequel Moïse dit au verset 12, « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert de la sagesse. » Aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. On ne va pas étudier un personnage, ça ne sera pas une étude linéaire. J'essaie de diversifier la nourriture que je vous donne. Je suis plus à l'aise des fois dans les études de personnages et les études linéaires, mais exceptionnellement, on va faire une thématique. La thématique, c'est « Ne gâche pas ton temps ». On ouvre dans le livre de l'Ecclésiaste ensemble. Et on va voir trois principes. Vous y êtes, Ecclésiaste ? C'est après Proverbe. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. On pense que c'est Salomon, le roi d'Israël, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. C'était récent. c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on parle de réussir sa vie, on dit qu'il faut avoir de l'argent. Salomon, il en avait plein et plus que plein. Est-ce qu'il avait une réussite sociale? Est-ce qu'il était reconnu? Oui, d'ailleurs, la reine de Saba se déplaçait pour, parce tellement elle l'admirait intellectuellement, reconnu. Est-ce qu'il était heureux par rapport à tout le domaine de la sexualité, vie affective? Il n'y avait pas de personne qui avait des plus belles femmes que le roi Salomon. Et pourtant, il écrit un livre entier consacré au temps, le livre de l'Ecclésiaste. Et dans ce livre, il te laisse trois principes pour éviter de brûler ton temps. Premier principe, le principe des saisons. Deuxième principe, le principe des contraintes. Troisième principe, le principe des priorités. Le principe des saisons, le principe des contraintes et le principe des priorités. Et c'est extrêmement fort. On pourrait dire que c'est un livre de philo, sauf que c'est de la philo inspirée par Dieu. Donc c'est génial. C'est bien mieux qu'un cours de management. C'est bien mieux qu'un cours de développement personnel. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est des paroles que Salomon a écrites sous l'inspiration de Dieu. Et il commence avec le principe des saisons. Vous voyez cet arbre-là? En rose, blanc, première. C'est lorsque le printemps fait éclore un bourgeon. Et que, j'ai ça parce que j'ai des arbres chez moi, j'ai un abricotier, petit pommier. Tout d'un coup, le printemps vient et alors qu'on voyait qu'avant une tige sèche, tout d'un coup, on voit un petit bourgeon rose qui sort et une fleur blanche qui éclot. C'est le printemps. On aime le printemps. La vie, la sève, les promesses que l'avenir va être meilleur. Et puis vient l'été. Et là, on voit des psaumes comme le psaume qui dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage vert. » C'est beau l'été. Mais la nature, créée par Dieu, connaît l'automne. C'est étonnant parce qu'en automne, les arbres sont peut-être les plus beaux qu'ils ont jamais été. Ils sont érables, ils sont couleur orangée. Vous avez tous les reflets dedans, comme les reflets du soleil dans les arbres. Sauf qu'au même moment où il est arrivé au paroxysme de sa beauté, c'est la sève qui commence à arrêter de couler dans la feuille. Et la feuille se détache parce que vient l'hiver où il perd ses feuilles, où il ne produit plus rien. Il est comme gelé, comme congelé. Et il s'arrête. L'Ecclésiaste dit, Dieu a créé des saisons. Vos vies sont comme la nature. Elles sont comportées de saisons. Verset de Ecclésiaste 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un moment pour toute chose sur le soleil. Il y a un temps pour naître. Amen ! Et un temps pour mourir. Pas d'amen. Un temps pour planter, ouais. Un temps pour arracher, aïe. Verset 4, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Vous savez, c'est pas du tout la théologie qu'on entend dans les églises. Dans les églises, on entend souvent une théologie de la prospérité, une théorie des champions spirituels. C'est des gens qui sont en janvier en été spirituel. En mois d'avril, ils sont taqués avec Dieu, c'est encore l'été. Au mois d'août, ils sont taqués avec Dieu en été. Et vous voyez, c'est comme si dans les églises, des fois, certains pasteurs simplifient tellement la Bible que si tu es proche de Dieu, tu seras à fond tout le temps, tu seras béni par Dieu, tu porteras du fruit. Non, non. Dieu est le Dieu des saisons. Est-ce que vous croyez que Dieu déteste les arbres qu'il a créés en hiver? Est-ce que vous croyez que Dieu va brûler, va détruire ceux qui vivent en hiver? Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas un cœur qui est proche de ceux qui sont affligés dans un lit d'hôpital parce qu'ils vivent un hiver, parce que dans leur vie sentimentale, ils vivent une rupture, une déception. L'Éternel est autant présent en hiver. Dieu aime autant l'hiver que l'été. Dieu aime autant l'automne que le printemps. Et ça, c'est contre-intuitif par rapport à nous, les super chrétiens évangéliques remplis du feu du Saint-Esprit. On veut être rempli de feu, mais être tout le temps à fond. Et ce n'est pas vrai. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour être célibataire. Et il y a un temps pour être marié. Il y a un temps pour rêver d'avoir des enfants. Et il y a un temps pour en avoir marre de changer les couches. Il y a un temps pour dire, j'aimerais tellement avoir du temps libre et vivement la retraite. Et puis il y en a un temps pour en avoir marre d'être à la retraite et d'avoir plus d'objectifs. Il y a un temps pour tout. Il y a des saisons dans la vie. Et je crois que c'est quelque chose de terrible que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on soit tentés d'enlever les saisons et de se croire plus intelligent que le Créateur. Et de faire comme si ça n'existait pas les saisons. Et qu'on porte tout le temps du fruit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des moments dans votre vie où ça sera plus dur de prier. Il y a des moments dans votre vie où ça vous coûtera davantage d'aller à l'église. Je pense notamment à tous les mamans qui ont un enfant en bas âge. Dans ces saisons-là de votre vie, servir Dieu vous coûtera beaucoup plus parce que vous n'aurez très peu de temps. Et si vous n'acceptez pas le rythme des saisons, vous vivrez mal la saison dans laquelle Dieu vous a placé. Si vous vivez mal votre célibat, et on n'a pas d'égalité là-dedans. Il y en a qui vivent très bien certaines saisons, il y en a d'autres qui les vivent très mal. Moi, je l'avais très très mal vécu. Il y en a, je dois le reconnaître, le vivent beaucoup mieux que moi, tant mieux. Il y en a qui vivent le mariage beaucoup moins bien que moi aussi. Donc chaque saison, c'est la leçon que je retire. Apprécie la saison dans laquelle tu es, à sa juste valeur. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore observé sous le soleil que ce sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. La richesse n'appartient pas aux hommes intelligents et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Et tour à tour, les saisons s'enchaîneront dans ta vie. Sois fidèle dans chaque saison. Accepte la saison. Aime Dieu dans chaque saison. Parce que lui, Dieu, il t'aime, quelle que soit ta saison. Vous voyez, c'est très dangereux pour nous. Moi, je suis un hyperactif, vous me voyez. Jennifer me disait tout à l'heure, mais toi, c'est la folie. Parce que quand je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train d'essayer de courir à l'imprimante. Vous m'avez vu, bon, vous connaissez tous mes défauts. Mais un hyperactif comme moi, l'hiver, mais c'est la double mort. Je me rappelle quand j'avais vécu, j'en ai pas eu des tonnes, j'étais très protégé. J'ai vécu une grande rupture amoureuse. Une grande, mais une belle. Une horrible, je veux dire. Là, en l'espace de quelques mois, je suis descendu, dépression, je demandais à Dieu, j'avais plus envie de vivre. Je disais, Dieu, franchement, reprends-moi, c'est pas grave, je t'aime, là-bas, je chantais, là-bas les anges dans la lumière vont m'accueillir, c'est mieux là-haut et tout. Enfin, j'étais pas en très bonne forme, vous voyez. Et j'acceptais super mal mon célibat, je comprenais pas cette rupture, j'avais plus, et je me disais, ça n'en finira jamais. La honte, 2 ans après, j'étais marié. Moi qui avais dit « j'aimerais plus jamais une femme sur la terre ». 2 ans après, j'étais là. « Nathalie, je promets de t'aimer tous les jours de ma vie. » Lalala. Et Dieu, il disait « Tour à tour, vous allez enchaîner des moments favorables et des moments défavorables. Et tout ne dépendra pas de votre niveau spirituel ni votre rythme de prière. Vous êtes dans une saison. Vous n'êtes pas à la place de Dieu, ok ? On ne donne pas d'ordre au Créateur. On l'aime, comme il nous aime. Alors, Alors, je sais qu'il y en a qui ont un tempérament différent du mien. Vous savez, ils sont un peu calmes. Les mauvaises langues disent qu'ils sont mous, mais ils sont calmes. Ils apprécient le bon temps, être tranquilles, tout ça. Ceux-là, ils vivent très bien l'hiver. En hiver, on ne vous demande pas grand-chose. Donc, ils sont tranquilles en hiver. Et puis, quand vient l'été, ils culpabilisent à mort parce que tout le monde leur fait des réflexions. « Hey, tu fais quoi de ta vie? Tu produis rien et tout !» Apprenez à accepter, à tenir compte aussi de votre personnalité dans chaque saison. On ne les vit pas de la même façon. Et pour terminer sur ce premier principe, le principe des saisons, sachez que votre temps et vos saisons, il faut être très prudent. Et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas tout espérer de la saison d'après. La Bible nous parle d'un homme qui avait fait une récolte incroyable, qui avait tout mis dans ses greniers. Il avait dit, voilà, il n'y a pas assez de place, je vais stocker, je vais créer des entrepôts, etc. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Regardez-moi tous ces hommes d'affaires qui bossent comme des fous, qui ne voient même pas leurs femmes, qui ne parlent pas leurs enfants pour mettre de l'argent de côté afin de s'offrir une retraite de folie. Et à 64 ans, ils ont un infarctus, ils meurent. Ils ont juste enrichi la sécu. C'est idiot. C'est juste idiot. Ils ont bossé. Et tout le monde, pendant leur vie, en disant, il a trop de chance, c'est ce qu'il gagne et tout. Et en fait, tout ce qu'il a, rien du tout. 70% en impôts et le reste, t'es mort. Ça sert à rien. Donc, soyez sages parce que en tant que chrétien, vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, bien comprendre le principe des saisons. Une fois que vous l'avez acquis et que vous acceptez la saison, vous allez être beaucoup plus heureux. Parce que vous accepterez comme l'apôtre Paul, lorsqu'il est dans une saison où il est frappé à Lystre, lorsque, un peu plus tard avec Silas, il est battu et avec des fers aux pieds, et qu'il est dans une prison, il chante. Parce qu'il sait que Dieu prend soin de lui dans chaque saison. Le célibat n'est pas une saison nulle. Il y a des joies là-dedans. Il y a des choses qui se passent que tu ne pourras plus jamais vivre. Mais c'est, vous savez, le verset disait tour à tour. Et il n'y a pas de justice. Des fois, on dit, c'est tellement bête. Ce n'est pas ceux qui sont les plus sages qui ont le plus de réussite. Ce n'est pas ceux qui sont les plus matures. Non, je sais. Et là, je te parle notamment peut-être aux chrétiennes dans nos églises qui se disent c'est une grande injustice. Vous avez des fois des gamines de 16 ans, 17 ans, complètement immatures. Elles ont un bébé. Puis vous avez telle sœur, 36 ans. Elle aurait été une super maman. Elle est stable, elle est équilibrée, elle est aimante. Et elle n'a pas de bébé. Et là on se dit, mais c'est bizarre. Si vous n'acceptez pas la saison dans laquelle vous êtes, vous allez lutter à contre-courant de la nature et des projets de Dieu. Des fois, Dieu veut changer votre situation et il peut faire des miracles. Mais vérifiez bien que vous n'êtes pas en train de lutter contre un temps de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je ne dis pas d'être fataliste, je dis savourez la saison parce que vous ne la revivrez plus jamais. 2013, quelqu'un veut revivre 2013 ? Vous ne pouvez pas. Vous ne revivrez aucun détail de 2013. C'est fini. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de vous savez, ces touches-là, double flèche en arrière, là, ça n'existe pas. Depuis le début du culte, là, 55 minutes sont passées. On ne les revivra plus jamais. Le chant qu'on a chanté, vous ne le revivrez plus jamais comme ça. C'est fini. Il a occasion unique. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses à gagner. Vous avez du temps que vous pouvez sauver. Parce que cette semaine, depuis 7 jours, peut-être vous avez pas perdu, entre guillemets, 55 minutes dans la maison de Dieu, mais vous avez perdu 17 heures à regarder la télé en moyenne. Ah si, regarde ton voisin, tu dis 17 heures. C'est la moyenne, là. Tout ça, non, soyez honnête. Et si toi, tu n'as pas passé 17 heures, c'est que lui, il en a passé 24. Vous imaginez ça? Et ça, c'est sans compter le smartphone, la tablette, l'iPad, Facebook, Twitter. Wouh! Ouais, Instagram, les photos, machin, tout, Snapchat, tout. Deuxième, après avoir ri, quelle saison? Comment donc? Vous êtes un peu en retard, voilà. Le principe des contraintes. Vous êtes encore là, là, c'est bon? Les contraintes. Vous devez tenir compte, pour gérer votre temps, de votre saison, mais vous devez tenir compte aussi de vos contraintes, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Arrêtez de rêver. Personne n'a une journée de 26 heures. À Tokyo, 24 heures. À Nairobi, 24 heures. À Londres, 24 heures. À Port-au-Prince, 24 heures. 24 heures. L'Ecclésiaste nous dit, mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela est aussi dérisoire, autant courir après le vent. Arrête de dire, si j'avais ça, si je recevais cet argent, du coup, si j'étais en couple, eh ben je vais, si j'avais plus de temps, mon travail me prenait moins, je passerais plus de temps avec Dieu. Je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. J'étais marqué parce que cette semaine, je rentrais avec dans le métro avec le secrétaire général de la Fédération des protestantes. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il en advient de l'ancien président? Il me dit, il est parti à la retraite. Oh. Je lui dis, mais il est où? Il fait quoi de sa retraite? Parce qu'il était super actif, le gars. Il me dit, ben, il est parti dans le sud de la France, dans un hameau dans lequel il y a 4 maisons. Il n'y a pas d'internet, il n'y a rien là-bas. Mais nulle part. Je lui dis, il va s'ennuyer à mourir. Il dit, non, c'est comme ça. Et puis, il m'a donné une autre phrase de sagesse. Il m'a dit, tu sais, Yvan, on ne fait jamais à la retraite, on ne fera jamais à la retraite ce que l'on n'a pas commencé à faire pendant la vie active. Je répète parce que tu digères un peu. On ne fera jamais à la retraite ce que l'on n'a pas commencé à faire pendant la vie active. Tu es là en train de dire, bon là je travaille comme une folle, j'ai pas le temps d'aller faire mon fitness, j'ai pas le temps d'aller à la salle de gym, mais je le ferai quand je serai à la retraite. Mon œil. On voit, vous avez vu des fois les chefs d'entreprise avec le bidon à qui demandent leur autorité, vous savez, un petit peu de trop de bons restos. Et avec leur bidon, ils sont là, ils disent, non, mais dès que je serai à la retraite, je me mets au golf. Mais à 65 ans, avec son épaule qui lui fera mal, il ne fera pas de golf. Si tu n'as pas commencé à faire une activité pendant que tu es actif, tu ne la feras pas plus tard. Si tu ne prends pas la peine d'un petit temps avec Dieu maintenant, ne me dis pas que pendant les vacances, tu vas le faire, j'y crois pas du tout. Parce que pendant les vacances, tu vas te rendre compte que tu es très fatigué et que du coup, tu vas faire sauter aussi. Donc soyez honnête. Ce que vous avez dans la main vaut mieux que ce que vous pourriez avoir par la pensée. Et il y a des contraintes auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Au verset 10 d'Ecclésiaste 6, ce qui a déjà été bien connu et que l'on sait ce qu'est l'homme, il ne peut pas contester avec ce qui est plus fort que lui. Quelles sont tes contraintes impératives? Journée, 24 heures. Il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs ici. Certains ont besoin de 6 heures, 7 heures, d'autres 8 heures. Moi, je suis plutôt 8 heures, 9 heures, la misère. Il faut dire aussi que je brûle après. Mais j'ai besoin de tant d'heures de sommeil. Donc, si je fais le calcul, 24 moins 8, 16. Plus, pyramide de Maslow, je suis désolé, je rappelle tes cours de terminale ou de BTS. Il y a des besoins de base, on appelle physiologiques. Manger, te nourrir, boire, dormir, se vêtir, sécurité. C'est le besoin après. Tu as besoin d'un toit, tu as besoin d'être dans un endroit correct. Une fois que tu as fait ça, pour faire ça, il faut que tu bosses. Donc, tu as 8 heures de boulot par jour. Sur les 8 heures, il y a tant d'heures qui sont des dépenses contraintes quant à ton salaire. Sur ton salaire, tu as 90% de dépenses, c'est des contraintes impératives. Hein. Donc en gros, si je fais le calcul sur 35 heures, il y a 30 heures, c'est pour manger. Hein. Manger, dormir, juste la base. Et puis après, il y a les heures sup, enfin on va dire il y a un petit peu d'heures, et puis pour acheter quoi? Pour acheter quelques trucs qui sont, une fois que tu as acheté un S3, tu vas passer au S5. Parce que tu dis, c'est mieux. Une fois que tu as un écran 80, tu dis, ah attends, j'ai pas la télé en 3D avec les lunettes qui font moche là. Mais bon, j'ai envie de ça. Puis finalement, t'achètes de la télé 3D, mais tu n'oseras jamais amener les voisins parce que vu la tête que ça te fait avec les lunettes 3D, tu voudras faire ça tout seul dans ton salon parce que c'est trop moche. Et puis finalement, l'écran 3D, au bout d'un moment, il ne t'intéressera plus. Donc y a, ça, c'est ce que j'appelle les facultatives. Il y a plein de contraintes qu'on se met pour rien. Ça, ça dépend notamment de notre passé. Très individuel. Cette voiture que tu as achetée à crédit fin 2010, eh ben, tu as emprunté une somme. Du coup, aujourd'hui, tu es obligé de faire des heures sup pour payer le crédit de la voiture. Mais concrètement, cette voiture, aujourd'hui, elle te mange 4 heures sup par semaine. Vous n'aviez jamais vu les choses comme ça ? Non, c'est normal. Mais à chaque fois que vous achetez quelque chose à crédit, en gros, vous achetez, vous donnez du temps pour avoir la chose. Parce qu'en fait, vous allez devoir travailler pour la payer. Donc ça va réduire, en fait, vous êtes en train d'augmenter vos contraintes impératives. Et c'est terrible parce que l'être humain, on n'a jamais assez dit « Ah, ça, je sais pas, ça, je veux !» Et c'est le principe de la pub. La pub vous rend esclave de votre temps. Puisqu'après, vous devrez travailler pour payer ce que vous avez voulu. Et vous allez donc réduire le temps que vous pourrez donner à Dieu. Le temps que vous passerez dans la présence de Dieu. Le temps que vous passerez avec les enfants de Dieu dans l'église à servir les autres. Attention à vos contraintes impératives. Certaines, quand je dis, dépendent du passé, comme les dettes. Mais dans la vie sentimentale, il y a des choses aussi qui se passent. Par exemple, vous avez eu un enfant d'un mariage précédent. Ben, il y a un beau papa. Qui dit beau papa dit droit de visite, droit de garde, machin. C'est des bazars en plus, mais c'est comme ça. Et vous n'allez pas dire... Ben non, c'est des contraintes, je les enlève. Impossible. T'es une maman, t'assumes. T'es un papa, t'assumes. Donc il y a des contraintes que vous avez de votre passé. Puis il y a des contraintes de votre présent. Les contraintes de votre présent, pour tous ceux qui sont en études, il y a plein de jeunes là. Quand vous allez arriver à la période d'examen, vous allez avoir des contraintes, vous allez avoir plus de travail à l'approche de l'examen. Donc vos soirées, quelqu'un qui a un job, une fois qu'il a fait ses 35 heures, il peut aller au ciné après. Et c'est peut-être pour ça que ta collègue va dire hey, « Eh, tu viens avec moi, on sort, c'est ça, ça. Eh, je suis désolé, j'ai partiel la semaine prochaine, je peux pas. » En fonction de votre situation de vie, vous allez avoir des contraintes présentes qui ne sont pas pareilles. Un célibataire n'a pas de contraintes le dimanche soir. En face de son frigo, de sa télé, son smartphone, il n'a pas de contraintes. Une maman, 3 enfants, dont 2 enfants de moins de 5 ans, le dimanche soir, elle ne le voit pas, hein. Puis juste un petit truc, si vous me permettez, mesdames. Vous n'êtes pas pareil que nous les hommes, mais vraiment. Par rapport à la notion de temps libre, que fais-tu de ton temps libre? J'ai eu le droit, j'ai eu une autorisation de Nathalie de pouvoir parler de ça, mais bon, je me livre un peu. Mais... Ma femme est une femme organisée. Elle planifie. Et pour pouvoir bien vivre sa semaine, pour pouvoir profiter de sa semaine, elle a besoin que ça soit bien préparé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un maximum de problèmes qui soient résolus en avance, et si c'est bien préparé, bien organisé, alors elle savoure sa journée. C'est une maman, elle sait, ah, les enfants, c'est bon, il y a quelqu'un qui vient les chercher. Si tout est bien calé, il y a quelqu'un qui va aller chercher à la crèche, quelqu'un... Ah, je suis bien. Alors, je peux me reposer. Mais tout est planifié, en fait. Vous voyez où je veux venir. Alors, Nathalie, par exemple, je vous donne une discussion classique d'un couple homme-femme, Mars-Vénus. Deux planètes, pas le même langage. Donc, Vénus vient voir Mars. Elle lui dit, chérie, qu'est-ce que tu veux comme temps libre? Alors, je te propose, soit on va faire un ciné, soit on va faire ça. Ah non, on prépare rien. Mais Nathalie, rien n'existe pas. Tout est planifié. Le temps libre. Tu vas faire quoi de ton temps libre? Ben, je lui dis, mais s'il est libre, j'ai rien besoin de mettre dedans. Mais pour Nathalie, un vide n'existe pas. C'est une femme organisée. Donc elle dit, mais qu'est-ce que tu veux concrètement dans ton temps libre? On va faire quoi? De qu'est-ce qu'on va faire de 10h12 à 11h14? Je lui dis, mais rien! Je pars dans ma grotte, juste rien. Ça, c'est un truc d'homme, quoi. L'homme, dans son temps libre, c'est du temps qui, justement, est affecté à rien. Il y en a qui rigolent, je ne sais pas si c'est du vécu, mais... L'homme, il a besoin de bugger de temps en temps. Enfin, c'est... Pour vous, c'est une perte de temps, mesdames, etc. Mais pour nous, c'est nécessaire. C'est un temps non programmé. Il y a un côté sauvage dans les hommes, vous voyez. On part dans la steppe, on est comme des lions. Mais on a juste besoin de rien faire. Ou du moins faire ce que l'on veut, mais que ça ne soit pas prévu. Et ça, c'est... Voilà, chacun va affecter son temps libre. Respectez votre personnalité. Par contre, la nuance... Il y a des pièges au temps libre. J'y vois trois pièges. Le piège du désir sans limite d'accumuler des choses. Je n'ai pas le temps de le faire, mais tout l'Ecclésiaste, c'est ça. C'est il court, tel, et va, on n'a jamais assez. Un petit peu plus loin, d'ailleurs, j'ai mis un verset. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela est dérisoire. T'achèteras un yacht, t'en auras pas assez. Il faudra un deuxième yacht, il faudra un plus grand, il faudra ceci, ça. T'en auras jamais assez. Donc, la soif de posséder les biens matériels, c'est nos limites. Et ça, ça va te manger ton temps libre. À chaque fois que tu vas dire oui à la pub, tu vas te brûler du temps libre. Du coup, j'en viens au deuxième point. Après le désir, il y a l'oisiveté. Ce temps où on a besoin de regarder la télé pendant, allez, je me donne une demi-heure. Qui a voulu se regarder une émission pendant une demi-heure et s'est dit, je regarde que une demi-heure. Puis au bout de 25 minutes, il vous reste 5 minutes, vous zappez et vous tombez sur une émission qui est bien plus intéressante à côté. Du coup, vous regardez l'autre truc. Sauf que ça fait déjà 43 minutes que vous êtes en train de regarder la télé. Et comme c'est la pub, vous changez, vous repassez sur l'autre et là, il y a un truc qui est mieux. Alors, c'est... Et comme ça, t'as perdu 2h15. À la base, tu passais 30 minutes et au final, t'as passé 2h15. Parce que au lieu que ça soit toi qui dirige ton temps, c'est la télé qui t'a piégé et qui t'a mangé ton temps. Il n'y a aucun amen, il y a juste un trouble chez certains. J'accepte l'idée, il n'y a pas de souci. Premier piège, le fait d'accumuler. Deuxième piège, l'oisiveté. Troisième piège, le stress. Je suis content en tant qu'homme de pouvoir balancer ça. Tiens. Ça arrive chez les hommes aussi, mais c'est plutôt féminin. Le besoin d'apporter des solutions à tout. Même des problèmes insolubles, comme comment aider la famille qui est restée à Kinshasa alors qu'on n'a pas d'argent soi-même. Vous allez passer la moitié de la nuit là-dessus. Mais le tonton et tout, c'est juste pas possible, on peut pas le laisser comme ça, mais je peux pas d'argent. Bilan, t'as passé 4 heures à te faire du souci et t'as même pas envoyé d'argent. Donc à la fin, t'as gagné 4 heures de stress, plus de la culpabilité et t'as rien fait. Je dis ça pour les... Mais bon, il y a plein d'autres domaines. Combien d'heures vous perdez à penser à des choses que vous ne résolverez pas. Des problèmes auxquels Jésus dit « Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une seule longueur à la durée de sa vie ?» Écoute, Moïse te dit « Apprends-moi, Seigneur, à bien compter mes jours. » Parce que leur nombre est court. C'est toujours beaucoup plus court qu'on pensait au début. D'accord ? Allez, je vais conclure. On approche de la fin. Troisième, le principe des priorités. La question souvent qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et je pense que c'est une mauvaise question. Moi, j'ai envie de te poser la question, c'est qui veux-tu devenir? Et en fonction de ton vrai objectif, tu prendras les moyens de changer. Mais il faut vraiment savoir où tu veux aller. Qui veux-tu devenir? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Parce que c'est ça qui va, en fonction de tes contraintes et en fonction de ta saison, va infléchir ton temps. On a très peu de temps libre par jour, mais le peu de temps libre que l'on a, vers quoi on l'affecte? Où est-ce qu'on le met? Si tu veux devenir, si tu veux développer ta communion avec Dieu parce que tu veux devenir plus sérieux dans le domaine spirituel, il va falloir que tu affectes ton temps libre à cela. Si tu as envie d'affecter ton temps libre au service des autres, tu vas peut-être dire, voilà, je vais m'engager dans ce service, ça va devenir une contrainte. Je pensais à Jean-François qui a préparé la Sainte-Cène ce matin. Il s'est levé plus tôt que les autres parce qu'il y a 3 ans, il avait décidé d'aider et a accepté d'être responsable de Sainte-Cène. Ce qui fait que il fait l'effort de s'assurer que si ce n'est pas lui, il y ait quelqu'un, mais qu'il y ait toujours de la Sainte-Cène. Donc il y a un moment où à la fin d'une réunion, il a choisi d'affecter son temps libre et de dire, j'accepte de l'apporter à Dieu, que ça va devenir une contrainte, mais ça sera pour le service de Dieu. Et il le fait fidèlement depuis 3 ans, à Créteil pour éviter, parce que des fois dans des églises, vous donnez la main, on vous arrache le bras, et puis vous partez en entier, il ne vous reste même pas la chaussette à la fin. Donc on essaye à Créteil de dire, voilà, les services, vous engagez pour 1 an, pour pas que ça soit une contrainte qui soit un prélèvement automatique à vie, vous voyez. Donc vous avez une contrainte, mais c'est pour 1 an, et c'est pas automatique. Vous avez le droit de dire, voilà, j'ai servi pendant 1 an, mais j'enlève cette contrainte pour la réaffecter à un autre temps. Je pense que c'est sage. En tout cas, moi, je défends cette idée. L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux faire? Mon temps libre, il va pas être libre longtemps, de toute façon. Il va être affecté, hein. Donc, à quoi vous le mettez? Si vous commencez à dire, chaque matin, je vais prendre 1 quart d'heure pour lire ma Bible, ça va devenir une contrainte. C'est bon, vous suivez là? Mais c'est une joie. Ça dépend de chacun, ça dépend de votre saison. Si vous êtes une maman avec un enfant en bas âge, peut-être que vous n'avez pas réussi à la tenir, celle-là. Donc, prenez pas, c'est une contrainte que vous ne pourrez pas tenir. Pour conclure, je vous donne, moi, ce que j'ai mis en place comme mes objectifs, ce que je voulais prioriser. J'ai mis, et je vous conseille d'écrire vos objectifs sur la feuille. Moi, j'ai mis, d'abord, je vais prioriser ma relation avec Dieu. Je n'ai pas dit mon service pour Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ma relation avec Dieu. Je n'ai pas dit, je vais pas... Je ne parle pas du fait d'être pasteur, là, je parle d'être juste comme toi, un enfant de Dieu qui prend soin et qui aime son Père céleste. 2, Nathalie, mon couple. Hey, pasteur, tu mets ta femme avant l'église? Oui. Oui. Je ne l'ai pas fait au début. Et j'ai eu chaud, il fallait que je corrige. Parce qu'un pasteur qui serait là en dépression parce qu'il serait en début de divorce, je ne pourrais plus prêcher. Donc mon couple est bien plus important que l'église. Après, en 3, je mets Tan et Shaina, mes enfants, parce que sinon vous pourriez arriver un jour avec un verset que celui qui aspire à la charge d'enseignant, enfin d'évêque dans la Bible, prenne soin de ses enfants, etc. Je ne serais pas crédible vis-à-vis de vous. Vous allez dire, attendez, il n'arrive déjà pas à gérer sa famille, qu'est-ce qu'il va m'enseigner lui? Et quatrièmement, vous, je vous aime éperdument, je vous aime énormément, c'est l'Église. Et j'ai décidé de vraiment mettre le paquet. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même, vous passez avant mes loisirs, et avant, évidemment, et avant mes moments de joie. Parce que je me dis, le service de Dieu d'abord. Je mettrai Dieu, tes affaires avant mes petites affaires à moi. Tu prendras soin des miennes. Alors, tu as fait ta liste ? Qui tu veux devenir ? Ah, parce que le pire aujourd'hui, je l'ai mis dans les derniers textes, c'est de, si tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. J'aime bien le sans tarder. Commence pas à dire, ah ouais, dans tant de temps, je prendrai cette résolution-là. Soit tu l'as fait aujourd'hui, tu commences ce soir, soit tu ne le prends pas. Certains vont me dire, je vais attendre d'avoir un peu plus de temps libre pour le faire. Regardez ce que dit Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui guette sans cesse le vent, en gros qui amènera la pluie, n'en semencera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Si tu attends d'avoir plus de temps, dans 3 ans, tu es au même point. Tu as juste un peu plus de culpabilité, c'est tout, d'avoir rien fait. Par contre, il nous dit, dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Une fois que tu as fait un objectif, investis-toi dedans. Il y a un pasteur qui m'a demandé, Yvan, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le succès de la croissance numérique de Créteil ? Je lui dis, ben, évidemment, là, il y a la grande part de Dieu, et après, il y a une petite part des hommes. La grande part de Dieu, pour moi, ça se résume en une phrase. Laissez le Saint-Esprit construire son Église. Évitez de lui mettre des bâtons dans les roues, comme on fait dans plein d'églises des fois. Juste laisser Dieu agir et dire, waouh, tu fais un job formidable. Et puis, pour ma part à moi, bosser, le travail. Quand je vois le nombre d'heures que les bénévoles donnent, si on devait cumuler le... C'est du travail. Il y a des pasteurs qui ils ont envie d'avoir la croissance numérique, mais ils n'ont pas envie de bosser pour. Hein. Si tu ne travailles pas, tu ne récolteras pas. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, vous savez, certains ont une famille de cultivateurs. Vous avez un cultivateur dans votre famille ? Quelqu'un qui met des semences ? Peut-être certains en ont. Le cultivateur, vous voyez, il a un dilemme lorsqu'il a un sac de céréales. Il se dit, soit je le mange, soit je le plante. Si je le mange, ça va être bon. Et maintenant, ou bien soit je le garde, je le sème et je récolterai plus tard. Et c'est un pari parce que peut-être les céréales ne vont pas pousser. Mais dès le matin, prends ta semence et vas-y. Sème. Parce que Dieu fait toutes choses belles. Ecclésiaste 3, 11. L'Éternel, Dieu, fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Qui veux-tu devenir ? Quelle priorité es-tu prête à changer ? C'est pas trop tard. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est Ecclésiaste 7, 8. Aujourd'hui, 13 avril, je ne vais pas révolutionner ta vie. Tu as plein de dépenses qui sont liées à dépenses de temps qui sont liées à ta saison et qui sont liées à des contraintes impératives. Mais pour la petite marge qui reste, oriente ta priorité vers ce que tu veux devenir. Oriente ta priorité vers ce que tu veux devenir. Est-ce que tu veux investir dans ta famille, dans l'église, dans ta relation avec Dieu ? Tout ça, c'est des bonnes choses. Hein. Mais sais qui tu veux devenir et investis là-dedans. Laisse le Saint-Esprit t'aider, fais un vœu et commence sans tarder. On va fermer les yeux ensemble. Je vais demander à toute l'équipe, les musiciens de revenir. Je sais que certains ont peur de faire un vœu parce qu'ils se disent « Waouh, plusieurs fois j'ai voulu changer et puis j'ai jamais réussi. » Eh bien, change quelque chose de petit. Des fois, ça peut être tout simplement télécharge une application sur ton smartphone pour qu'à l'arrêt de bus, au lieu de perdre ton temps, t'écoutes la Bible. Tu seras la seule, le seul qui, alors que les autres sont en train de faire la tête, parce que tu entendras un psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Tu seras la seule qui va sourire dans le métro. Tu es le seul qui va être heureux au boulot. Juste avant de rentrer dans le local, tu auras écouté ça et tu seras rempli du Saint-Esprit. Commence à chercher toutes ces petites fuites de temps, ces petites pertes de temps. Seigneur, pour tout ce que je peux, changer, aide-moi à me livrer totalement, à te faire confiance. Il y a un chant qu'on va prendre et dit « Je me livre totalement. » Tu peux, Seigneur, m'utiliser. Pas comme les êtres humains qui t'utilisent comme un Kleenex puis qui te jettent derrière. Non, non, on ne dit pas ça à une organisation religieuse. Je ne donnerai pas ma vie. Je ne dirai jamais à un être humain « Je me livre totalement à toi. » Par contre, je peux le dire à l'Éternel. Parce qu'il est celui qui s'abaisse pour m'aider. Il est celui qui s'abaisse pour me conseiller. Il est celui qui m'aide lorsque je n'arrive pas à tenir. Il est celui qui vient m'encourager lorsque je suis prêt de lâcher. Et alors je peux lui dire, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Je te donne mon temps, je te donne mes moyens, je te donne mes ressources. On va se lever ensemble. Je me livre totalement, Jésus.
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi.
Seigneur, tu peux.
Seigneur. On va encore essayer d'être meilleur, Seigneur. Non par nos propres forces, par ta grâce. Seigneur, je te bénis pour ceux qui vivent des saisons de prospérité. Je te prie pour ceux qui vivent des saisons de difficultés. Seigneur, même dans les déserts, tu donnes de l'eau à tes enfants. Seigneur, je te bénis pour ceux qui restent fidèles dans les saisons de difficultés. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui, malgré des contraintes très complexes, arrivent à te servir, arrivent à te louer, arrivent à aider les autres. Seigneur, je te bénis pour eux. Seigneur, aide-moi à tenir mes priorités, comme tu entends les prières de ceux qui sont là en cet instant. Au nom de Jésus, amen.